Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvre-la, une émission de jeunes. Moi et mon père, bonjour.
Bonjour.
Qui animeront l'émission? On est actuellement dans les locaux de Cause Commune pour vous présenter le monde sous l'angle des jeunes. On se retrouve encore une fois sur Radio Cause Commune en FM 93.1 à Paris et dans sa région, ou en DAB, ou sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Et même en podcast.
En podcast bientôt.
Aujourd'hui, on vous dit comment vous habiller pour pas vous faire recaler devant les portes du lycée. On va aussi vous parler de militantisme sur Internet avec nos deux points de vue. Et on parlera aussi d'art, ou en tout cas de ce qui nous est présenté comme de l'art à l'école.
Avec nos deux points de vue, c'est-à-dire que moi aussi, je vais devoir parler.
Bah pour une, ça fait longtemps que je t'empêche de parler, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée.
Impeccable.
Voilà, donc pour... commencer, comment s'habiller à l'école? Alors récemment...
Attends, pas trop vite.
Ok.
Comment s'habiller?
S'habiller bien déjà.
Dis-nous comment t'es habillé.
Moi je suis en full jean, c'est-à-dire pantalon jean, veste jean et bientôt les chaussettes.
Chaussettes en jean bientôt, ok.
Ouais.
Avec un petit t-shirt vintage.
C'est ça.
Chaussures, t'as quoi?
Chaussures. Aucune des Vans, je crois. Je me connais pas très bien en chaussures, pour le coup, c'est pas forcément mon univers.
Ok, donc c'est de la queue marque quand même, et ton pantalon jean, c'est un cargo.
Honnêtement, la marque...
Non mais c'est un cargo, c'est-à-dire que t'as des poches sur les côtés.
Ouais, c'est ça. Alors, et bah justement, en parlant de t-shirt que j'ai trouvé en friperie, bah dans mon lycée, il y a eu une friperie qui a été organisée en partie par le collectif d'éco-délégués de mon lycée, c'est-à-dire des élèves volontaires qui ont été élus par chacune des classes, et avec l'aide d'une association de recyclage et de redistribution dans ma ville, il y a eu pendant une semaine des lycéens qui pouvaient ramener au lycée des vêtements dont ils n'avaient plus besoin, soit parce qu'ils étaient trop petits, soit parce qu'ils avaient marre de les porter. Et la semaine qui suivait, ces vêtements-là allaient être vendus toujours au lycée à 1 euro. Et du coup, ça permettait... Et les invendus allaient être donnés à l'association pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et ça a plutôt bien marché, hein, chez les filles notamment, qui ont été les donatrices et les consommatrices principales. Moi aussi, j'ai passé deux récrés avec des amis à regarder ce qui pourrait m'aller, même si j'ai pas forcément eu de chance là-dessus. Et la friperie a été gérée premièrement par des élèves, mais aussi sous la supervision de CPE, ce qui est assez logique, hein, qu'il y ait un adulte qui supervise quand il y a un échange d'argent, etc. C'est assez logique. Mais ça a quand même donné lieu à une scène où des filles regardent une robe et la CPE qui fait des remarques, soit qu'elle pourrait pas la porter au lycée parce qu'elle était trop révélante, soit parce qu'elle était au contraire trop longue et que du coup ça pourrait s'apparenter à une abaya. Alors ça me fait me demander, mais comment est-ce que en tant que lycéen, que lycéenne, on peut rentrer dans les clous du règlement en fait? Et à l'exception de certaines règles fixées par le ministère de l'Éducation nationale, avec l'exemple des abayas qui ont été interdits au début de cette année, et ça change en fonction des lycées. Les tenues non acceptables et acceptables, elles sont précisées dans les règlements intérieurs qui sont décidés dans les CA, entre autres.
Les CA, c'est ?
Un conseil d'administration du lycée. Donc, grosso modo, c'est la principale qui, au début, la proviseure plutôt, qui au début de l'année soumet le règlement intérieur et il est rarement, enfin, il est validé par les membres du CA. Voilà. Donc, dans le règlement de mon lycée, par exemple, il y a une partie qui insiste sur le fait que les accessoires pour cheveux, ils doivent se limiter qu'à des serre-têtes fins. Ça, c'est pour éviter que les filles qui portent le voile cherchent un moyen de le trouver, de le garder dans le lycée. Dans le lycée d'un ami qui est en Normandie, c'est les joggings qui sont interdits parce que c'est considéré pas professionnel.
Et comment tu fais quand t'as sport ?
Et comment tu fais quand t'as sport ? Bah, soit, j'imagine, c'est autorisé dans ces cas-là, mais dans ce cas, je sais pas forcément comment ça doit être fait, sinon... Il y a ce truc où, dans plein de lycées encore, tu dois te changer. Tu amènes ta tenue de rechange avec toi. Et j'ai une amie qui est dans un lycée privé, et chez elle, c'est les vêtements courts qui sont prohibés. Et là, on recommande des vêtements longs et larges. Donc, ces réglementations, elles sont utilisées pour essayer de faire correspondre les étudiants à un espèce d'idéal d'enfant parfait qui respecte des valeurs. Et c'est pour ça que la définition concrète, donc les règles changent, c'est parce que il y a ce désir de rendre d'un conformisme chez les élèves, d'où tout le débat sur les uniformes d'ailleurs. C'est toute la question, est-ce qu'il faudrait pas que tous les élèves se ressemblent, comme ça il y aurait plus de problèmes sur la manière dont ils s'habillent. En réalité, ces réglementations, elles ont des motivations très claires qui sont les mêmes que dans toute la société. Quand on parle de s'intégrer à une norme, ça se base notamment sur la misogynie et le racisme. Hein. La misogynie, ça se voit très bien. Les réglementations, elles sont en majorité écrasantes pour les femmes et les filles.
Pas une jupe trop longue, pas une jupe trop courte, pas de pantalon si tu portes un pantalon, et puis
pas de robe, parce que sinon voilà, dans le débat public c'est les paniques morales, on le voit, c'est toujours sur la manière dont les femmes s'habillent. Elles s'habillent soit trop avec les abayas, les voiles, etc., soit pas assez. On avait eu les paniques morales sur les crop tops il y a quelques années.
Oui.
Dans le règlement, la majorité des règles, elles s'appliquent qu'aux femmes, et parce que bah, typiquement on n'a jamais mesuré le short d'un mec, alors qu'il y a encore des établissements où on mesure la jupe des filles. Tout ça en fait en prétendant vouloir protéger les femmes, mais pour les contrôler. L'école, elle plonge les jeunes filles dans un système patriarcal dès le plus jeune âge, et ça les forme en fait à être discriminées et contrôlées selon ces principes. Ce qui est pas... enfin, c'est pas choquant, et au point où c'est normal, une école qui ne contrôlerait pas ses filles, c'est perçu par certains parents comme un manque d'autorité ou quelque chose qui va les mettre en danger. La dimension raciste, je trouve qu'on en parle moins parce qu'elle se voit moins, peut-être. Les vêtements acceptés, ils sont différents en fonction de la personne qui les porte. Avec la panique morale autour des abayas, par exemple. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une fille qui porte une robe longue parce qu'elle aime ça et une fille qui la porte pour des raisons religieuses ? Bah, en fait, c'était en regardant sa couleur de peau que ça s'est fait concrètement. J'avais eu l'exemple au lycée l'année dernière de deux amis, deux mecs là pour le coup, qui portaient un même espèce de pantacourt blanc, donc un pantalon large. Et pourtant, il y en a qu'un seul qui s'est fait recaler à l'entrée du lycée. On lui a dit oui, non, ça ressemble trop à un camis. Le camis, c'est une tenue portée par les hommes musulmans pour aller prier. Et moi, du coup, il y avait mon ami qui est blanc, lui, on l'a laissé rentrer, mais pas un autre parce qu'il était arabe en vrai.
Ouais, tu portes le même pantalon, mais selon que t'es perçu comme étant blanc ou comme étant potentiellement musulman, on va peut-être plus te bloquer à l'entrée, quoi.
Bah, c'est ça, et ça va se faire aussi dans d'autres lycées. Typiquement, dans mon lycée, c'est sur ça, mais dans le lycée où les joggings sont interdits, ce truc de « il faut être professionnel, il faut pas mettre de jogging », dans un certain sens, il y a porter des vêtements de sport régulièrement, c'est aussi quelque chose qui s'apparente à une certaine classe sociale.
C'est peut-être un lycée professionnel aussi.
C'est pas un lycée quand professionnel, c'est un lycée général.
C'est un lycée général, ouais.
C'est un lycée général.
Parce que je me dis, quand t'es en formation, que t'es en alternance ou quoi, bon, bah, on t'apprend aussi à porter l'uniforme. Je sais pas, quelqu'un qui veut travailler dans la restauration, par exemple, faut qu'il ait une certaine mise.
Pour le coup, c'est vrai que les lycées restauration et hôtellerie, là, il y a un uniforme qui est obligatoire. Mais parce que c'est le métier qu'on apprend. Non, là, c'est dans des lycées général où on va essayer de faire adhérer à cet idéal de l'élève qui vient en tenue professionnelle et qui est prêt à travailler en interdisant ce qui pourrait être, ce qui est considéré comme contraire. Mais est-ce que c'est contraire de porter un jogging plutôt que de porter un jean?
Est-ce que c'est contraire à quoi?
Est-ce que c'est contraire à cet idéal de professionnalisme? Est-ce que, enfin, il y a, et foncièrement, on revient toujours à ces mêmes mécanismes qui sont, bon, là, la misogynie et le racisme, mais aussi enfin, j'imagine le classisme, enfin, pas j'imagine, je le vois, on va demander aussi aux gens de venir habiller proprement, mais qu'est-ce que ça veut dire proprement? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des trous dans ses vêtements? Et dans ce cas-là, il y a ce foncièrement une discrimination qui se fait au lycée.
Oui, non, mais attends, les trous dans les vêtements, faut pas être naïf non plus. C'est aussi une mode.
Oui, c'est une mode, mais
c'est pas les gens qui ont des trous dans les vêtements. C'est des gens qui font des trous dans leurs vêtements pour. Comme un artifice de mode.
Oui, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on empêche des lycéens qui sont en train de se découvrir eux-mêmes, qui essayent de s'exprimer, pourquoi est-ce qu'on les empêche de s'exprimer?
C'est vrai qu'on les empêche d'avoir toute la palette d'expression de leurs vêtements en leur en imposant certains. Mais c'est peut-être aussi ça le rôle du lycée, je fais l'avocat du diable, hein. C'est d'apprendre des limites et puis de montrer ce qui est convenable ou pas.
Oui.
C'est vrai que la première fois que tu mets une chemise ou un pantalon qui soit pas un baggy, tu peux avoir l'impression d'être emprunté dedans, ne pas être à l'aise. Si on a pu à un moment donné t'apprendre à le faire, te mettre dans des situations où tu t'es retrouvé en chemise et en pantalon bien mis, peut-être que tu seras moins gêné quand t'en porteras, parce que tu seras obligé, parce que ce sera effectivement un cadre professionnel ou en tout cas plus sérieux, voilà.
Voilà, mais et la question elle se pose effectivement, mais la question qui se pose du coup par-dessus ça, c'est jusqu'où. Où est-ce que ça peut aller? À quel point est-ce qu'on doit former les élèves? Et d'où la question de l'uniforme. Et dans la vie, on n'a pas toujours un uniforme. S'il y a effectivement ce rôle de prêter, enfin d'éduquer les gens, voilà. Comment est-ce qu'on fait si tout le monde s'est toujours habillé de la même manière et une fois qu'ils vont débarquer, vu qu'on va avoir des orientations différentes, les codes du monde différents, ils vont être, on va avoir des mondes différents dans lesquels on va évoluer. C'est si effectivement c'est ça l'objectif, dans ce cas-là c'est mal fait dans les lycées, dans mon lycée où on va avoir des gens qui vont travailler en labo et pourtant ils sont pas tout le temps en blouse.
Bah ils sont en blouse dès qu'ils sont dans le labo, ouais.
Oui, ok, enfin c'est ou des gens qui vont travailler, on a des classes littéraires. À quoi ça va leur servir si elles sont bibliothécaires?
Il faudra leur apprendre à avoir les ronds de cuir au coude.
Au coude, bah c'est ça. Mais et même si et dans tous les cas, quand c'est utilisé dans un but de formation à la société, il faut faire attention aussi à ce que cette formation elle soit bénéfique, parce que quand on forme des filles à se faire juger selon la manière dont elles s'habillent, est-ce que c'est vraiment une bonne formation? Quand on va voir une fille qui a une jupe qui est jugée un peu trop courte, pour lui dire « Ah oui, non, tu t'habilles pas comme ça », est-ce que c'est... Oui, c'est une formation à la société, parce que plus tard, elle pourrait se faire insulter parce qu'elle a porté cette jupe. Est-ce que pour autant, il faut la former à se faire évincer parce que elle s'habille comme elle veut?
Mais c'est une réalité, donc... Est-ce qu'on doit t'en préserver ou pas? Ça, je... Oui, effectivement, je sais pas trop.
Parce que... Et dans un sens... Et comment est-ce qu'on peut espérer former des membres de la société autonome en leur disant comment s'habiller? Aussi, il y a ça. Parce que quand c'est...
Ouais, mais je te vois venir. Toi, en fait, ce que tu voudrais, c'est pouvoir changer de tenue comme tous les jeunes, hein, pouvoir changer de tenue tous les jours, acheter tes fringues sur Shine, les mettre deux jours, et puis ensuite les jeter, même pas utiliser la machine à laver.
Bah, oui, il y a ce problème-là. Effectivement, trop de liberté, ça a des problèmes. Mais c'est pour ça que moi, j'ai été très agréablement surpris de ce projet de friperie au lycée. Si on réussit à former une jeunesse qui s'habille de manière responsable en les formant aux problématiques aussi, hein, le collectif des co-délégués, leurs projets se sont pas basés uniquement sur... Enfin, ils ont pas fait uniquement cette friperie, ils ont fait tout un projet de sensibilisation à la fast fashion à côté. Ce qui permet...
La fast fashion, c'est quoi exactement?
La fast fashion, c'est la tendance qu'ont certaines entreprises de textile à faire des vêtements de très basse qualité pour pouvoir les vendre à des prix minimes. Et du coup, ça permet aux consommateurs d'acheter beaucoup de vêtements et du coup de pouvoir avoir une garde-robe un peu infinie. Donc, pour le prix d'un pantalon de bonne qualité qui durait 6 mois à 1 an chez une marque qui fait des pantalons, sur Shein, il serait à 4 euros et du coup, on pourrait acheter 20 pantalons Shein, mais qui se cassent au bout de 2 jours.
Ouais. Oui, c'est de la moins bonne qualité.
C'est de la très mauvaise qualité.
Donc toi, qu'est-ce que tu recherches, de la bonne qualité ou plutôt d'avoir différents habits pour différentes périodes de ta journée?
Bah pour le coup, dans un univers parfait où tout le monde peut s'assumer et s'habiller comme on veut, on peut très bien imaginer que les gens trouvent chacun leur style et n'aient pas besoin d'en changer tous les jours. Ou, dans le cas des friperies, qui puissent aller quand ils veulent essayer des nouvelles choses et changer, ne pas acheter du neuf, acheter quelque chose qui a déjà été porté par peut-être quelqu'un qui lui aussi voulait essayer quelque chose d'autre, et bah, faire ce système de distribution de vêtements vraiment responsable. Mais dans ce cas-là, il faut laisser les gens s'habiller comme ils veulent, et deuxièmement, leur donner des espaces où ils peuvent s'exprimer et aussi qu'ils aient la capacité de d'échanger dans ce cas-là des vêtements en fait que ce soit par le biais d'une friperie ou même si
ou une bourse d'échange ou ouais
tout ça peut s'organiser de mille manières différentes.
Ça m'a l'air un peu utopique tout ça pour l'instant. Est-ce qu'on écouterait pas un petit peu de musique?
Bah oui, on va écouter Extra L de Jenny et Dochi.
All of my girls looking good and they got their own money. Pop your shit, this and my girls from the spot, so they got their own funding. Knock your shit, run through your city, that motorcade. Soon as I enter, they close the gate. Presidential through your residential, bitch, it's nothing. Sit back your rules as I move them right. Walk in a room and I set the fire. Get a pay, get a lash along. Whole team, they gassing on us. You sit too far, I don't want them charged. So even ask me who's in charge. Riding round, foreign cars. Top down, staring at the stars. Attitude, sort of star. Big moves, only extra large. Riding round, foreign cars. Top down, staring at the stars. Doors down, got the keys to the vents. In the boardroom, looking bored, cause I'm not here for pleasing the men. Not here to reason with them. Misbehave, mispush my pen. I can't tame my passion for him. Can't keep up what happened to them. Yeah, lapping them in.
Top of the food chain, boss in a new chain, this and a new thing, no, sir. Money on stupid, hopped in a new whip. You still on my old work. Work, this might hurt. I sweat hard, wet t-shirt. Extra large, ain't scared of the dirt. Hit that jackpot, now I'm riding round. Attitude, soda stars, big moves, only extra large.
Et voilà, c'était Extra Large de Jenny et Douchi, donc un mix entre de la K-pop avec Jenny qui était membre d'un groupe d'idol et Douchi qui est une rappeuse qui a démarré, enfin qui les deux ont explosé cette année et du coup avec ce single qui est sorti très récemment hein, en 2025 en février.
Et qui parle de mode.
Et qui parle.
Parce que c'est important d'être bien habillé pour aller danser.
Exactement. On est toujours diffusé sur Radio Cause Commune en FM 93.1 à Paris et dans sa région, ou en DAB ou sur internet à l'adresse cause-commune.fm, et même en podcast. Dans quelques semaines, on sera diffusé cette émission sera disponible en podcast.
Et oui, on est le dimanche 27 avril, et si c'est pas la même date chez vous, c'est que vous écoutez une rediffusion.
Voilà, on va enchaîner sur le deuxième sujet, alors le militantisme en ligne. Alors,
oh là,
on va commencer.
Toi, t'as envie de parler de Twitter?
Pas forcément, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez, enfin, qui existe sur tout Internet, hein. Vu que Internet c'est quand même super pratique pour faire parvenir à des millions de personnes une information, c'est assez normal que le milieu militant se soit emparé de cet outil pour pouvoir diffuser leurs idées. Je pense qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui de réseaux sociaux.
Ok, alors top 5 des réseaux sociaux pour militer.
Honnêtement, il y en a aucun qui sont vraiment bien. Hein.
Non, mais même je si trouve... c'est les moins bons, c'est sur lesquels, pour les gens qui connaissent pas les lycéens, quand t'es un lycéen, que tu parles de réseaux sociaux sur lesquels il y a des militants, tu penses auxquels?
Pour le coup, directement, ça va être TikTok en tout premier.
Ouais.
Parce que c'est une des applications les plus utilisées pour faire du contenu. Et que ça, pour le coup, ça touche très rapidement plein de gens. Ensuite, après, je dirais que Twitter remplit toujours ce rôle malgré l'horrible événement Musk. Même si Twitter a toujours eu ce truc.
Et oui, il faut dire ex Twitter maintenant parce que c'est X.
On va pas. Moi, je refuse de faire comme Elon Musk.
Est-ce qu'on milite sur Facebook quand on est lycéen?
Ah, pour le coup, Facebook, c'est vraiment devenu une application morte, hein, qui est remplie notamment de trucs de désinformation pour essayer de piéger des vieux, honnêtement. Hein, c'est l'utilisation première de Facebook aujourd'hui. Et sinon, si Instagram fait assez bien ce travail, avec le système de story notamment, on peut afficher pendant 24 heures un post. Du coup, ça permet sur son profil, on peut afficher pendant 24 heures un post, ce qui permet de relayer de l'information, pareil, à toutes les personnes qui vont regarder votre profil.
D'accord.
Voilà. Et toi, c'est quoi les réseaux que tu utilises?
Oh, moi, je suis nul en réseaux sociaux. J'utilise Mastodon.
Ouais, c'est...
Réseau social décentralisé, libre... Où il y a pas grand monde, il y a le compte de Cause Commune qui est actif pour être au courant de toutes les émissions qui sont diffusées en temps réel. Okay. Je pense que c'est le seul et YouTube.
Ah, YouTube.
YouTube aussi qui parfois on le considère comme un réseau social que j'aime bien. Et qu'est-ce que je peux consommer aussi? Twitch. Mm-hmm. Twitch, où là, on est plutôt sur des vidéos de flux, c'est-à-dire des vidéos qui durent longtemps. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les revues de presse, par exemple.
Ok. Voilà, donc, comme on voit, il y a plein d'outils, en fait, pour diffuser de l'information militante. Et du coup, ça fait qu'en quelques heures, on peut avoir des millions de personnes qui sont informées sur un sujet à la fois. Donc, un post Instagram, ça peut devenir un moyen militant, en fait, de partager un post, de le partager à ses amis, de le commenter ou de le liker pour qu'il soit mieux référencé. Il y a beaucoup ce truc du référencement, faire en sorte qu'un maximum de personnes le voient. Et du coup, comme ça, les gens qui ont interagi avec le poste, ils se sont valorisés, en vrai, en tout cas, c'est ce que je vois. Ils ont l'impression d'avoir fait une bonne action en republiant un post militant. Et on voit même une tendance de culpabilisation des créateurs de ce genre de contenu avec un post sur un sujet humanitaire, par exemple, qui va commencer par « tu es un monstre si tu passes cette vidéo parce que tu empêches, tu tues des bébés lamentins en ne donnant pas ton argent, typiquement. » Et du coup, c'est moyen quand même... C'est souvent utilisé à bon escient. Hein. La production de contenu, elle est rémunérée sur les réseaux sociaux. Les plus gros réseaux sociaux, c'est rémunéré. Et avec, par exemple, la situation à Gaza, on avait eu des vidéos avec tous les revenus d'une vidéo qui sont reversés à une famille gazaoui. Et quand la créatrice est honnête, ce qui, j'imagine, est souvent le cas, c'est plutôt bien, non?
Oui, si on peut envoyer de l'aide à des gens qui en ont besoin, oui, juste en regardant une vidéo en plus.
Voilà, ensuite, oui, c'est bien, je pense, de reposter et d'essayer d'informer à son échelle pour des causes justes. Mais est-ce que c'est vraiment, pour toi, un acte militant de reposter
Non, en vrai, il vaut mieux envoyer de l'argent, enfin son propre argent, parce que... déjà les réseaux sociaux, faut être clair, ça rapporte pas grand chose. Enfin, je sais pas combien t'as de followers et combien t'as été payé par les réseaux sociaux.
Mais oui, pour le coup, c'est il faut avoir non seulement des millions de vues pour faire un revenu concret, et en plus il faut il y a toujours ce truc d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir des conditions qui fixent eux-mêmes. Pour être sûr que tu puisses pas... typiquement, l'exemple de TikTok, si tu fais une seule vidéo qui marche bien et que c'est ta première vidéo, tu reçois rien dessus, en fait.
Ah ok, il faut en faire plusieurs.
Plusieurs. Il y a même eu ce truc de... Il faut poster régulièrement.
Ouais.
C'est quelque chose qui est fait pour vraiment rendre le créateur dépendant de la plateforme, en plus.
Oui, mais c'est ce que j'ai compris. C'est que finalement, être créateur, c'est surtout être... aux ordres de la plateforme, être un employé de la plateforme et puis lui créer du contenu, quoi.
C'est ça, et avec en plus ce truc de dès que on va avoir un créateur, vu que les plateformes ont la mainmise totale sur leurs créateurs, ils peuvent couper à n'importe quel moment le créateur sans vraiment donner d'explication, en fait, vu que ils sont employés, mais c'est écrit nulle part en réalité. Mais du coup, moi, le militantisme en ligne, je le vois surtout comme, important et intéressant quand ça va être juste pour sensibiliser les gens, mais typiquement pour s'informer. Moi, mon problème, c'est qu'on va avoir des gens qui ont aucune légitimité à informer les gens. Ils sont pas journalistes, ils sont juste TikTokers ou... Tweetos.
Ouais.
Voilà.
On dit pas.
Et qui vont se donner ce rôle de informer la population sur des sujets qui, en fait, ils ne maîtrisent pas. On a vu des choses qui sont très bien passées avec typiquement Hugo Décrypte. Tu connais Hugo Décrypte?
Oui, parce qu'il était sur YouTube, lui.
C'est ça. Qui est devenu un vrai média d'information, ouais. En direct. Qui fait un bon travail en réalité, mais on va avoir aussi beaucoup de personnes qui vont lire la une des journaux et relayer ça en faisant des critiques depuis leur salon sans aucun travail de recherche, en fait. Et
ouais, alors quand on voit ce que font certains grands médias, ça y ressemble aussi, hein.
Ah oui, c'est vrai, mais et c'est aussi un problème, mais dans ce cas-là, il faut aller se renseigner sur des médias indépendants, ou en tout cas des médias qu'on sait être sûrs, mais il faut pas... Enfin, moi, mon problème, c'est pas tellement que ces gens-là existent, c'est que ces gens-là, on leur donne une plateforme, justement, et d'où tout le problème de... tu commences en TikToker qui fait des vues en étant controversé, et 2-3 mois plus tard, t'es sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Parce que ça, c'est il y a plusieurs influenceurs pour qui ça s'est passé comme ça. pour moi, c'est un problème. À partir de quel moment est-ce qu'on fixe la ligne de militant sur Internet et journaliste ou en tout cas chroniqueur dans une émission qui passe à la télé? Est-ce que, et même plus large question, est-ce qu'il y a une légitimité à avoir en fait?
Du coup,
bah, c'est quelque chose où j'ai envie de dire j'en sais rien, parce que d'un côté, est-ce qu'on va priver de parole toutes les personnes qui n'ont pas fait des études de journaliste?
Par exemple, les lycéens qui viennent se la raconter le dimanche après-midi à la radio.
Bah voilà, c'est ça. Mais bon, à quel moment est-ce qu'on s'autorise à raconter de la merde sur un sujet qu'on connaît pas?
Non, mais il y en a plus d'un, hein. C'est pas propre aux réseaux sociaux, c'est pas propre à Internet. Finalement, c'est propre à chaque média. Que ce soit un média écrit, que ce soit un média audiovisuel, on va. Enfin, je la comprends, cette critique, hein. Mais on peut la généraliser à n'importe quel média.
Oui, mais j'ai envie de dire, il y a quand même une autorité dans les médias traditionnels. Enfin, l'ARCOM pour la télé, on va avoir des organismes assez similaires. Et puis, on va avoir une vraie équipe derrière chaque journal qui est censée assurer la fiabilité des informations transmises par le média. Ce n'est pas le cas pour les réseaux sociaux. Souvent, on estime que ça devrait être le rôle des plateformes. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Non seulement c'est pas le cas, mais en plus, depuis Trump, elles se désengagent complètement de leur travail de régulation et...
Bah, c'est ça. On a vu récemment Meta qui autorise les gens à dire que l'homosexualité et être transgenre, ça peut être des maladies mentales. C'est plus réprimé par les bots de modération de Meta. Mais à partir de ce moment-là, s'il n'y a plus aucune modération sur les réseaux sociaux, comment on fait? Et c'est ce qu'on voit avec Twitter, qui avait déjà une bien grosse base de personnes d'extrême droite et fascistes, en fait, qui maintenant peuvent s'en donner à cœur joie et dire vraiment ce qu'ils veulent, en fait.
Ok, donc une chose déjà, c'est de choisir son réseau social. Après, bon, on peut pas se couper du monde non plus. Est-ce qu'il y a des comptes en particulier que tu peux nous recommander de suivre?
Des comptes?
Et de quoi ils parlent?
Sur les réseaux sociaux, premièrement, suivre les comptes des médias qu'on sait être sûrs.
Comme TF1?
Bah, TF1, c'est oui, à la limite, parce qu'ils font de l'information directe, mais c'est pas forcément intéressant. Moi, je vois le compte sur TikTok, typiquement, le compte du Monde, qui font un vrai travail de partager l'information en format court, et qui ont des retranscriptions de leurs... comment ça s'appelle ?
De leurs articles ?
De leurs articles, mais aussi de leurs entretiens. Dans ce cas-là... se diriger vers des médias qui font ce travail, c'est très intéressant. Mais, et comme d'habitude, hein, c'est renseignez-vous sur les médias que vous consommez avant de les consommer. Je pense que c'est un travail, mais qui doit être fait pas seulement sur les réseaux sociaux, sur un peu tout en réalité.
Ouais.
Voilà. Ensuite, comme compte concrètement, je sais pas forcément, il y a pas forcément de compte qui est à 100% safe, enfin, même pour les trucs de, comment on dit?
Ce que t'aimes bien, essaie de nous donner envie des réseaux sociaux que, mine de rien, on consomme tous, on va arrêter de se mettre le doigt dans l'œil.
Oui, bah justement, on consomme tous des réseaux sociaux, mais avec, j'ai un peu envie de dire, il n'y a pas de consommation éthique sur les réseaux sociaux.
Ok, donc tu veux pas nous dire qui tu suis.
Parce que j'ai pas d'exemple concret en tête.
Est-ce que tu as été exposé à ce qui vous fait rire, vous les jeunes, c'est-à-dire Skibidi Toilette? Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus pour parler d'art.
On parlait des réseaux sociaux à la base, je pense pouvoir rester dessus.
Il y a ce truc de... justement, il y a tout un pan des réseaux sociaux qui est dédié à ce qui s'appelle le... qui est dédié à ce qui s'appelle le shitpost. Toi, tu sais ce que c'est le shitpost?
Moi?
Oui.
Genre dire des trucs pour rien dire, juste pour emmerder les gens?
C'est...
Moi?
le shitpost, bah, c'est exactement ça. Hein. C'est poster des choses qui n'ont soit aucun sens, soit un très peu de sens, dans le seul but, de le faire. C'est parler pour parler. Ce qui peut être
et puis éventuellement de faire réagir.
Oui, c'est ça. Ce qui est d'un côté très très drôle, ce qui peut être très très drôle. Et puis de l'autre, on a eu cette espèce de panique morale sur
Skibidi Toilette.
Non, sur comment ça s'appelle?
Je sais pas. Tu me regardes comme ça avec la main devant la bouche, mais je ne sais pas de quoi tu veux parler.
Quand les gens, ils regardent des trucs débiles.
Le brain rot.
Oui, c'est ça, le brain rot.
C'est le cerveau qui pourrit, quoi.
C'est ça.
À force de faire défiler son écran.
Voilà, avec cette panique morale, dès que des gens regardent pas un truc intellectuel, on leur reproche de participer à... je sais même pas comment ils appellent ça,
au pourrissement d'Internet.
Ouais, c'est ça. Au pourrissement d'Internet et au pourrissement de la société. Et après, les gens vont se plaindre que, ah oui, les gens deviennent bêtes, etc. Moi, j'ai aucun problème, au contraire, avec ce fait de poster de la merde pour poster de la merde juste pour rigoler. Parce que foncièrement, c'est drôle, en fait.
Non, mais t'as pas saisi la perche que je t'ai tendue.
Bah.
C'était juste pour dire qu'il y a aussi des formes d'art sur Internet et que là, dans le troisième segment de notre émission, on va parler d'art.
On va parler d'art, c'est vrai.
En attendant.
Un petit morceau de musique, Stage 12 Tubular de Petite Sœur. No. Time to lose a little blood.
Finir sans ricoglips. Pour mon histoire faut innover. Il me faut 100 cas par prinobé. Je coupe un plan avec la zinotée. Je boule en trip d'aspinotée. Un platane dans une salopée. Les copies c'est une salopée. Puis moi je veux ma veille. Je me tire les cheveux devant l'écran bleu. J'ai craché tout la veille. Dans 4 soirées tu le grand bleu. Ça t'arrête ta carrière dans un lucky block. 3 j'ai puis je règle les yeux qui bloquent. Toi t'as des remords t'as pas un glock. J'arrive gros comme Nasa en cloque. Je deviens comme sur la VD. Puis je gamberge la mâchoire à serrer. C'est nous les nouveaux goûts. Tendance on reste tant que ça les froisserait. L'addiction me faisait vomir. Je consommais le médoc qui rend malade. J'ai pris problème à l'envers. Je voulais changer le monde avant ma life. Mon frère est en vie, God bless. J'espère jamais le tirer à l'avoir fait. Y'a des trucs, on est les premiers humains sur terre à l'avoir fait. Tous ces bâtards mettent la lumière sur ma gueule, je fais que d'éteindre. Je suis parti d'en bas, j'ai compris qu'à la surface c'est que d'éteindre. Au rez-de-chaussée c'est que d'éteindre. Premier étage c'est que d'éteindre. Deuxième étage c'est que d'éteindre. Même sur le toit y'a que d'éteindre. En 2K18 jamais pas un banc. J'ai avec 6 bières dans mes temps. Penseur t'as mal, mais qu'est-ce que t'entends? Faire la mal souvent que c'est tentant. Bouge, tu connais pas la sentence. Tu parles trop, t'as pas l'ascendant. On a dormi pendant tant de temps que je fais la même chose en attendant. Faire rentrer deux fois ton crédit. Nouveau plat, vise pas ton crédit. Chez nous, l'ego trip, c'est la vraie. Tel est le malheur qu'on a pris. Qu'un pour des rêves de Rick Owens. Tu vois finir sans Rick Owens. Pour mon histoire, faut innover. Il me faut 100 cas par prix Nobel. J'coupe un plan avec la zinotée. J'poule en trip d'aspinotée. Un platane dans une salopée. Les copies, c'est une salopée. Bibi, moi, j'veux ma paye. J'me tire les cheveux devant l'écran bleu. J'ai craché tout la veille dans 4 soirées du le grand bleu. T'adaptes ta carrière dans un lucky block. 3 j'ai puis j'règle les yeux qui bloquent. Toi t'as des remords, t'as pas un glock. J'arrive gros comme Nasa en cloque. Là j'crache des barres comme si j'allais crever si la track s'arrête. J'guette les posers avec les yeux de la forme des fois de la marche. J'ai juste qu'une issue, maman. J'ai juste qu'une issue,
Donc c'était Stage 12 Tubular de Petite Sœur. Alors
Petite Sœur, je vais t'apprendre à prononcer le nom de ton artiste favori.
C'est pas mon artiste favori.
Il y a pas de E dans Petite Sœur.
Petite Sœur, bah oui, Petite Sœur, une rappeuse anarchiste, il me semble, très cool. Je vous invite à aller écouter son dernier album Cut for Zalgo. Voilà, et on revient sur notre dernier sujet, du coup, l'art, pas cette fois l'art du brain rot sur Internet.
Mais... Alors que c'est mon préféré.
Eh oui, mais on va parler plutôt de l'art tel qu'il nous est présenté à l'école. Alors, j'ai cherché un peu comment c'était, quels étaient les objectifs fixés par l'éducation nationale. Et il y a une charte pour l'éducation artistique et culturelle faite par l'éducation nationale qui définit les objectifs des projets liés à l'art menés à l'école, donc de la maternelle au lycée.
Et je suppose que tu as quelque chose à en redire.
Bah, sur son troisième article notamment qui dit, je cite, hein, « L'éducation artistique et culturelle... » Pardon, l'éducation artistique et culturelle vise l'acquisition d'une culture commune, riche et diversifiée.
Est-ce qu'on parle de la culture commune de Minecraft dont il était fait référence dans le morceau de musique précédent ?
Bah non, justement, malheureusement, hein, ça poursuit ce projet de l'éducation nationale. De créer un socle de valeurs et de culture commune pour tous les Français. Un peu comme ils essayent de le faire, comme j'en parlais dans le premier sujet, de nous uniformiser dans nos vêtements, et là, comme dans l'art qu'on consomme, en fait. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, essayer de construire une société où on a tous les mêmes valeurs et une base de...
Enfin, des valeurs communes, ensuite les mêmes valeurs, bon...
Oui, non, des valeurs communes et un socle culturel commun, c'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf que dans les faits, c'est plus difficile. Déjà, pour beaucoup d'élèves, l'art à l'école, c'est synonyme longues sorties scolaires pas forcément intéressantes, durant lesquelles on s'ennuie pas mal, mais qu'on accepte seulement parce que ça nous fait rater des cours. Et pourtant c'est pas inintéressant, hein. Je veux dire, aller au Louvre, c'est pas forcément une mauvaise chose.
T'es allé toi au Louvre avec l'école ?
J'y suis allé quand j'avais en CM1, donc quand j'avais 8-9 ans. Et c'est vrai que j'y suis retourné depuis en y allant seul avec des amis ou avec ma famille. Et c'est vrai que y aller avec l'école, c'est quand même un super moyen de s'y faire chier. Pourquoi ? Parce que on va déjà avec une classe de 30 enfants regarder des tableaux qui ont été choisis par nos profs, qui sont souvent les classiques, sans vraiment s'arrêter sur les choses qui nous intéressent. Et moi, mon problème, c'est pas juste qu'on aille regarder des tableaux, c'est aussi que on nous force une certaine culture avec ce truc de il faut connaître certaines œuvres, et il y en a d'autres où on s'en fout totalement alors qu'on est dans un musée quand même. Et moi j'ai souvenir de justement cette sortie quand on va au Louvre et on arrive devant la Joconde. Alors déjà il a fallu qu'on se batte un peu avec des touristes pour pouvoir la voir, et ma prof à l'époque qui dit mais comment ça vous ennuie ? Bah oui, en fait, quand t'as 8 ans, que la Joconde, bon, tu l'as déjà vue parce que il y a des images un peu partout, mais pour toi ce qui est plus impressionnant, c'est typiquement le radeau de la Vénus, je crois.
Le
radeau de la Méduse.
Parce que c'était un bateau qui s'appelait la Méduse.
Le radeau de la Méduse qui est à côté, qui fait 10 fois la taille de la Joconde, et là où au moins il se passe des trucs.
Oui, et puis la...
Ah voilà, je m'entends, merci Elias qui a la technique. Donc oui, non, le radeau de la Méduse qui est un immense tableau avec un... une histoire fantastique et qui est bien plus impressionnant effectivement que la tête de
Mona Lisa.
De Mona Lisa qui, bon,
c'est ça. Et moi je me souviens, il y avait eu ce truc où on avance vers la Joconde qui, je sais pas si vous voyez le Louvre, hein, mais qui est tout au fond d'un couloir, et sur les côtés il y a plein d'œuvres, souvent des œuvres énormes. Il y a le radeau de la Méduse, mais il y a aussi un qui s'appelle le Banquet, qui fait deux fois le radeau de la Méduse, il me semble, qui est vraiment énorme et magnifique. Et avec notre professeur qui essaye de nous avancer sans qu'on s'arrête devant les énormes tableaux magnifiques pour nous emmener voir la Joconde, où on la voit.
Mais est-ce qu'on vous a expliqué un petit peu pourquoi aller voir la Joconde ?
Quand j'avais 8 ans, on a essayé de nous expliquer, sauf que nous, on pigeait rien. en fait. Mais oui, ouais. Mais c'est un classique. Mais oui, mais regarde, elle te regarde où que tu la vois.
Non, mais c'est pas... En fait, c'est... La Joconde, il faut pas regarder la tête de la dame. C'est le fond. Et oui. C'est la première fois qu'il y avait une perspective rendue de cette manière-là.
Ça, bah, typiquement, on ne l'avait pas expliqué. Ouais. Et, j'en ai pris connaissance. Enfin, c'est toi qui me l'as expliqué, d'ailleurs. Deux ou trois ans plus tard. C'est quand même... Et moi, c'est ça que je trouve assez fou et que je trouve profondément dommage. C'est que on dégoûte les enfants dès le plus jeune âge en leur montrant seulement les choses qu'on estime qu'ils doivent savoir et qu'on les balaie dès qu'ils essaient de s'intéresser à quelque chose qui n'est pas légitime. Mais c'est-à-dire au point où... Quand on va au Louvre, on va toujours voir ce qui est peinture classique, donc les peintures peintes en Occident, enfin les œuvres occidentales, alors que le Louvre, c'est quand même toute une partie sur l'Égypte, toute une partie sur l'Océanie, qui sont elles aussi très intéressantes. Et c'est un truc, des sorties au Louvre, il y en a des centaines chaque jour de classe. Et elles vont toujours voir les mêmes choses. Moi, ou en tout cas, même si elles vont pas voir... enfin, si.
Il me semble quand même que le fond égyptien est pas mal fréquenté, y compris oui. Par les groupes. Je suis pas détenteur des statistiques, mais...
C'est vrai que égyptien, mais moi, c'est vraiment cet exemple du de la partie Océanie. Où j'y suis allé plusieurs fois, en fait, et c'est quasiment toujours vide. C'est-à-dire que même dans les touristes et dans les personnes qui viennent, il n'y a jamais personne, même à des moments où un samedi, c'est un samedi après-midi, il devrait y avoir le truc est rempli, mais pas sur la partie Océanie. Ce qui est, et moi, je trouve ça assez fou. Et encore moins, c'est encore moins rempli de classes.
Ouais.
C'est un truc... Et moi, je trouve ça dommage, parce que, et même sur la partie Mésopotamie, pareil, c'est pas rempli, en fait. Alors que c'est le berceau de l'humanité, etc., c'est quand même super intéressant, quoi. Et puis, mon autre problème avec l'art tel qu'il nous est présenté à l'école, c'est que il y a des codes qu'il faut avoir quand on veut s'intéresser vraiment à l'art, même quand c'est de l'art classique, etc. Ces codes-là, ils sont très rarement expliqués. Et les rares fois où ils sont expliqués, c'est avec beaucoup de dédain et de « Ah, mais comment ça, vous connaissez pas ?» On nous a, enfin, moi, j'ai ce truc, au collège, il y a des cours d'art plastique. En sixième, notre prof qui nous parle de Guernica et qui s'étonnait qu'il y avait que la moitié de la classe qui connaissait Guernica.
Oui, en sixième, on peut se dire que c'est normal, surtout que c'est une œuvre qui est très, très, très violente.
Voilà, et la prof qui s'énerve, qui dit « Comment ça, vous connaissez pas Guernica ? C'est inacceptable !» et qui ne nous l'a pas montré. Parce que moi, je me dis « Ah, les gens ne connaissent pas Guernica, c'est pas grave. Tu cherches Guernica sur Google, tu la vois. Non, non. Ah, vous connaissez pas ? Bouh, la honte. On passe à autre chose. » Et après, on s'étonne que les jeunes veulent plus s'intéresser à la musique. À la musique, pardon. À l'art.
À l'art, ouais.
Ou qu'ils aient des cultures alternatives. Et il y a aussi ce truc de quand on va créer notre propre ressource d'art, c'est-à-dire avoir nos propres sources, donc typiquement les paniques sur les mangas, quand on va avoir un certain art qui est à nous, qu'on va construire et qui n'est pas forcément légitime, pareil, là, on va nous insulter et nous shamer sur ces cultures-là, tout en s'étonnant en même temps qu'on ne s'intéresse pas à l'art. Et c'est toujours ce truc, c'est si les jeunes n'y commencent pas... Enfin, aucun jeune ne va commencer son premier livre en lisant du Balzac.
Oui, non, il faut commencer par Tchoupi, mais c'est ce que je recommande.
Voilà.
Ou un autre du même niveau, hein, mais effectivement.
Et on va s'étonner que comment ça t'arrives au lycée et t'as jamais lu 1984. Oui, tu peux l'avoir lu avant. C'est pas une honte de pas avoir lu 1984. Et pourtant, et c'est la reproche que je fais aux profs de langue en fait, d'être là pour nous apprendre des choses et de s'étonner qu'on ne les ait pas, qu'on ne les connaisse pas en arrivant.
Oui, évidemment.
C'est j'ai une amie qui me racontait que cette année, bon, bac de français, il travaille Rimbaud. Comment ça, vous connaissez aucun texte de Rimbaud? Bah, je sais pas, je suis en cours de français pour ça.
Non, et puis Rimbaud, effectivement, comme tu disais pour Guernica, Rimbaud aussi, c'est une œuvre. Ça sert à rien de s'y attaquer trop tôt. En fait, tu vas pas comprendre.
Rimbaud, faut le lire à l'âge où il l'a écrit.
Ouais.
C'est
au plus tôt.
Au plus tôt, oui, c'est ça. Et même et Rimbaud, c'est, enfin, grand auteur. Du coup, ça veut dire que tu comprends pas tout du premier coup.
Ok. Alors, il a écrit à quel âge, Rimbaud?
Ben, Rimbaud, il a commencé à peu près à mon âge.
Interrogation orale.
Vers 16-17 ans, c'est là qu'il écrivait ses heures.
Oui, oui, oui.
Et que des adolescents arrivent et n'aient pas le talent de Rimbaud, je trouve pas ça choquant, en fait.
Non, non, mais il y en a qu'un seul, hein.
C'est ça. Et quand on va avoir un élève qui va écrire, je sais pas, ses petites histoires dans son coin, là, par contre, on va le bâcher, de dire « Ah là là... »
Qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux?
Mais c'est ça. Je trouve, pour moi, c'est pour ça qu'il y a une espèce de désenchantement de l'art chez les jeunes, qui fait que, il va y en avoir certains qui vont réussir à accrocher, soit parce que leurs parents les ont accrochés, soit parce que eux, ils ont vraiment cette attache personnelle, qui, eux, vont réussir, vont s'intéresser à la chose et vont finalement développer une culture.
Mmh.
Mais on va avoir une majorité qui va prendre la chose comme on lui présente, c'est-à-dire, à chaque fois que j'essaie de m'y intéresser, je me fais crier dessus. Ok, je vais arrêter de m'y intéresser, en fait.
Oui, c'est ça. Et donc ensuite, on va se développer avec d'autres formes d'art qui vont être plus populaires et qui vont prendre du temps à être accepté comme de l'art. Voilà, à accéder au statut artistique. Donc voilà, la bande dessinée, par exemple, pendant des dizaines d'années, c'était considéré comme des petits Mickey, pas importants, machin. Et maintenant, ça commence à peine à bouger, à évoluer, par exemple.
Voilà. Et c'est pour ça que... et même la bande dessinée, enfin, c'est quelque chose qui... Aussi, je pense qu'il faut accepter que tout le monde n'ait pas les mêmes intérêts pour l'art. Oui, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à la bande dessinée, au manga... oui, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser.
Quoi ? Les mangas ?
et oui, il va y avoir certaines personnes qui vont s'intéresser à la poésie. Est-ce que on va aller voir le mec qui s'intéresse à la poésie pour lui faire « Quoi, comment ça, tu ne connais pas le nom du 80e Tintin ? Oh là là, t'as pas honte ?»
Non. Tintin, c'est pas un manga.
Oui, non, c'est une BD. Ok, bon, tu connais... T'as pas lu One Piece ? Non, mais c'est pas pour autant que c'est pas un bon poète.
Mais... One Piece ?
Non, le poète qui a pas lu One Piece, c'est un bon poète. Le lecteur de bande dessinée qui a pas lu Rimbaud, il aime les bandes dessinées quand même, et les deux sont légitimes là-dedans.
Bah, c'est vrai que moi j'ai aussi cette sensation, et je pense que c'est lié aussi à Internet et à la facilité qu'on a à accéder à des œuvres d'art, hein, quelles qu'elles soient, c'est que des fois je me sens
submergé.
Merci. Je me sens submergé par tous les livres que je dois lire, tous les films que je dois voir. J'ai des listes de musées où je souhaiterais aller et en fait j'arrive pas. Ça.
C'est ça. Il faut.
J'arrive
accepter,
pas à l'entamer, quoi, ma liste.
Il faut accepter de pas tout savoir, pas tout lire et ne pas réduire les gens. Ce qu'ils lisent ou ce qu'ils consomment et les laisser aimer l'art, en fait. Voilà.
Et ben, en tout cas, on va inciter tout le monde à écouter la radio et particulièrement Cause Commune 93.1 FM à Paris et dans toute la région, sur le DAB aussi. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. Vous pouvez écouter nos podcasts. On a des tas d'émissions hyper intéressantes, dont Ouvre-la.
Dont c'est déjà le 4e épisode.
Et qui est... Comment tu définis ton émission ?
Bah, c'est un espèce de magazine d'actualité de la jeunesse.
Ouais, présenté par un lycéen.
C'est ça. On se retrouve dans un mois pour continuer à parler de plein de sujets de jeunes.
Comme Skibidi Toilette.
Ça,
il n'y a que ça qui vous intéresse, vous, les jeunes.
Bah, on verra peut-être comment est-ce qu'on traite les intérêts des jeunes dans les médias. Et voilà.
Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Portez-vous bien. Soutenez les collégiens et les lycéens qui vous entourent.
Voilà. Et merci à toi, mon père qui m'a aidé. Et merci à Elias qui est à la régie et qui nous a back pendant, pendant toute l'émission.
Ah, t'as oublié de... Et le générique de l'émission, c'est...
Le générique de l'émission, c'est Immaterial de Sophie. I was just a lonely girl in the eyes of my inner child.